Le psaume 32 de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Écoutez ce témoignage d'un jeune étudiant. Quelle ne fut pas ma surprise quand un ami chrétien qui m'avait amené à l'église m'a clairement dit que je n'étais pas chrétien. J'étais vraiment vexé. Je me sentais rejeté. Profonde est ma reconnaissance envers celui qui eut la responsabilité délicate de me mettre au pied du mur. Voici ce que je me disais alors. Et quoi ? Je participe régulièrement à des études bibliques, je vais à l'église, je suis plutôt d'accord avec les enseignements de Jésus, du moins ceux qui sont en accord avec ma pensée. Comment ose-t-il me dire cela? Je demandais peu après pardon pour mes péchés et je reconnaissais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Une joie profonde et continuelle m'envahissait et je désirais la partager avec toutes les personnes autour de moi. Je ne voudrais pas laisser croire qu'être chrétien, c'est tout le temps la joie, la fête et quelque chose de facile, mais je ne peux nier la profonde joie qui m'a alors inondé. Quel privilège de se savoir pardonner. Ce jeune homme est loin d'être exceptionnel. Beaucoup d'entre vous témoigneraient d'une façon semblable de la joie que vous avez connue au moment de devenir chrétien. Moi aussi. Nous l'avons à un moment donné perçu pour la première fois. Il n'y a rien de tel que le pardon de nos péchés. Il s'agit de reconnaître la réalité des deux premiers versets de notre psaume. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute. Beaucoup d'entre nous peuvent identifier un moment ou des moments où le Saint-Esprit nous a rendus particulièrement sensibles à cette réalité que nous sommes en règle avec Dieu, que je jouis d'une bonne relation avec celui envers lequel je suis redevable et responsable, que mes fautes ne sont plus mises à mon compte. Et cela couvre tout. Trois termes sont employés dans ma traduction. Transgression, péché, faute. Tout ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. Tout ce que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire. Tout ce qui subsiste en moi, qui est offensant. Le tout, réglé, pardonné. non prise en considération à mon encontre. Ces versets sont cités par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, dans le Nouveau Testament. Et là, il parle du cœur du christianisme, de l'essentiel du message de la Bible, de l'Évangile. Chaque être humain mérite la condamnation lors du jour du jugement. Mais pour celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, la punition qu'entraînent nos fautes a été assumée par Jésus-Christ lors de sa mort sur la croix. Il a porté la punition à notre place. Bien plus, sa vie parfaite compte en notre faveur. Nos fautes sont enlevées. Nous sommes considérés justes du fait d'être en Christ. Nous entendrons le verdict. Tu es juste lors du jour du jugement. Et quel sujet de joie. Mais j'ai remarqué une chose. Beaucoup de croyants témoigneraient du fait d'avoir connu cette joie. Mais aujourd'hui, peut-être que, si je peux tutoyer tout le monde, peut-être que tu me dirais, oui, je sais exactement de quoi tu parles. Je me souviens de moments par le passé où j'étais tellement émerveillé par cette bonne relation intime avec Dieu, par le pardon de mes fautes, par le bonheur d'être croyant. Je ne savais même pas comment exprimer tout ce que cela voulait dire pour moi. Comme le jeune étudiant, je voulais en parler à tout le monde autour de moi. Vous n'auriez pas pu m'empêcher. Mais aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je suppose que j'ai perdu un peu mon sentiment d'émerveillement, de joie, de bonheur. Et si c'est ton cas, j'ambitionne ce matin de te donner de retrouver le bonheur du pardon des péchés. Je vais vous livrer trois mots d'ordre qui émergent de ce psaume, trois mots d'ordre en vue d'une vie chrétienne réjouissante en continu. Et en respectant ces trois mots d'ordre, nous pourrons connaître tout au long du reste de 2019, au-delà, la joie en Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, l'Évangile est arrivé chez les Thessaloniciens avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Et nous te demandons maintenant que ce soit encore le cas, maintenant. Œuvre chez des personnes qui ne te connaissent pas encore. Œuvre chez nous qui te connaissons mais qui ne vivons peut-être pas pleinement le bonheur du pardon de nos péchés. Toi qui sondes les reins et les cœurs, sonde notre cœur à chacune, chacun maintenant. Et comme l'exprime David ailleurs, que tu nous abreuves au torrent de tes délices. Et cela pour ta seule gloire, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Donc si tu as connu la joie de ton salut par le passé, mais plus aujourd'hui ou moins aujourd'hui, ce psaume est particulièrement pour toi. Et si je devais te demander pourquoi tu ne vis plus aujourd'hui le bonheur que tu connaissais auparavant, tu me répondrais peut-être que c'est le poids du quotidien. Les défis constants, les circonstances de ta vie, toutes les peines, les difficultés, les épreuves financières, relationnelles, de santé. Et alors Dieu te répond dans sa parole ce matin, non. Non, Ce ne sont pas les circonstances qui posent problème. Tu peux connaître le bonheur du pardon de tes péchés au milieu de circonstances néfastes. Non. Le problème, c'est sans doute le péché. Et on pourrait être tenté de répondre, James, ça n'est pas très cohérent. Si je suis croyant, mes péchés sont pardonnés. Comment est-ce que le péché peut empêcher de connaître le bonheur du pardon si le péché est réglé? Eh bien, parce que être en relation avec Dieu et vivre cette relation avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Pensez aux enfants qui grandissent dans un foyer stable. Ils sont accueillis à la maison. Ils sont aimés par un papa, une maman, un parent adoptif. La relation est normalement solide. Mais ça ne veut pas dire qu'ils puissent vivre n'importe comment. S'ils sont censés être au lit à 20 heures et on les trouve en train de jouer sur une tablette à 20h30, il peut y avoir des conséquences. Pareil pour les enfants de Dieu. Nous qui sommes croyants, nous sommes en bonne relation avec Dieu, mais nous continuons à pécher. Ce qui veut dire souvent discipline, correction, peine imposée par Dieu, cela de par notre conscience, de par notre expérience, de par nos circonstances. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons retrouver le bonheur du pardon de nos péchés. Il suffit de respecter trois mots d'ordre. D'abord, la transparence. La transparence. Évitons de cacher nos péchés à Dieu. Évitons de cacher nos péchés à Dieu. Relisons à partir de la fin du verset 2. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Celui qui a écrit ce psaume, David, est passé par une expérience particulière. Plusieurs commentateurs essayent de nous faire croire qu'il s'agit de son double péché gravissime, le meurtre d'Uri et l'adultère avec Bethsabée. Mais rien de la sorte n'est précisé, l'expérience reste extrêmement vague et il nous est important de ne pas aller au-delà du texte. En effet, David souhaite expressément appliquer son expérience à tout croyant, il va le dire. Les principes qui sont énoncés dans ce psaume s'appliquent à toi qui es croyant, croyante, étant passé par des péchés sexuels et ou étant passé par des péchés de la langue et ou étant passé par des péchés d'amertume nourrie et ou étant passé par des péchés de refuser de pardonner à un autre et ou étant passé par des péchés plutôt privé, entre guillemets, connu donc uniquement de Dieu et de toi, le seul critère qui s'applique, c'est que tu en es conscient, consciente, au point d'en être inculpé dans ta conscience. Et le premier mot d'ordre, c'est la transparence. Voyez comment la fin du verset 2 le précise. Point de fraude. Début du verset 3. Ayant commis le péché en question, David a essayé de se taire. Oh, les stratégies que nous risquons de déployer pour nous convaincre que nous pouvons nous dire « Moi, je n'ai rien à me reprocher. » On étouffe, on enfouit, on place sous l'été noir, on essaie d'oublier, on s'active, on passe à autre chose, on banalise, on minimise. Oh, mais tout le monde le fait. On explique pour excuser. Oh, je dors mal en ce moment. On donne d'autres noms au péché, comme chez l'auteur populaire Joyce Meyer, faiblesse, défaut, erreur, ce qui est en dessous du meilleur, limitation, imperfection, gâchis. On diagnostique autrement, en situant ailleurs le vrai problème. Je suis mal dans ma peau, c'est là le problème fondamental. Ou dans la théologie de Joyce Meyer, par exemple, c'est le manque d'optimisme qui peut poser particulièrement problème. Mais Dieu n'est pas dupe. Notre fille Clara est dans l'école le dimanche en ce moment, elle a 8 ans. Mais si vous pouvez imaginer la fin d'une journée type chez nous à Bruxelles il y a 5 ans. C'est le moment d'étudier la Bible, de prier en famille. Et mon épouse Myriam m'explique à haute voix, les yeux pétillants, que nous avons perdu Clara. Et Clara est en train de se cacher. Mais c'est un tantinet évident que cette masse en dessous de la couette correspond à Clara. Et cela d'autant plus qu'elle est en train de rigoler. C'est marrant, surtout pour elle, qui pense peut-être qu'on ne la voit pas juste parce qu'elle ne nous voit pas. Mais lorsque nous jouons à ce type de jeu avec Dieu, ce n'est pas marrant. C'est pathétique, lamentable, absurde qu'on puisse imaginer que Dieu ne voit pas nos péchés. Nous ne pouvons pas fuir celui qui nous a créés. Nous avons affaire à celui qui sonde les reins et les cœurs. Lui connaît mieux que nous notre sentiment d'inculpation. Premier mot d'ordre, si nous voulons regagner le bonheur du pardon des péchés, soyons transparents dans la relation avec Dieu. Il faut être prêt à appeler un chat un chat. S'il en a péché, on a péché. Et si j'ai péché, c'est ma faute. Si l'on persiste à essayer d'étouffer, d'oublier, de banaliser, de minimiser, dans certains cas, ce qui va se produire, c'est quelque chose d'analogue à l'expérience des versets 3 et 4. « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Très loin, là, de vivre le bonheur du pardon des péchés. Là, c'est carrément physique. Ce n'est pas toujours comme ça lorsque nous avons la conscience troublée. Mais une conscience troublée peut, privée de sommeil, saper l'appétit et même dans certains cas avoisiner la dépression. Avec tout ce que cela peut provoquer, baisse de défense immunitaire, migraine, problèmes de peau et j'en passe. On peut être dans un état misérable. Il y a quelques années, un étudiant à l'Institut biblique de Bruxelles avait quelque chose sur la conscience. C'était catastrophique pour son sommeil. Je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'on dort mal, ou qu'on est malade, ou qu'on souffre, c'est à cause du péché. Loin de là. N'allons pas dans ce sens. Jean-Olivier, tu es enrhumé? Qu'est-ce que tu as fait? Non, mais Proverbe 17, 22. Un esprit abattu dessèche les eaux. Et dans le psaume, David parle de ses forces qui étaient épuisées. Pas de vigueur, pas de tonus, pas d'énergie. Vous savez ce que ça donne d'être exposé à des températures de 36, 37, 38 degrés. Et par moments, l'énergie vous a fait défaut. Ça, c'est l'image qu'il donne. nous n'avons rien à gagner en essayant de cacher nos péchés à Dieu. 1 Jean 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Premier mot d'ordre, la transparence. Les experts nous informent de ce que ce psaume était particulièrement chéri d'Augustin, le grand érudit du IVe siècle. Et Augustin a affirmé ceci. Le début de la connaissance, c'est se connaître en tant que pécheur. Si nous pouvons embrasser la transparence en matière de péché personnel, nous sommes en bonne voie dans notre quête de retrouver la joie du salut, car nous pouvons alors confesser la faute. Et c'est là notre deuxième mot d'ordre, la confession. La confession. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. Relisons les versets 5 à 7. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Oh, quel soulagement pour David, lorsqu'il a reconnu sa faute devant Dieu, le poids ôté, la peine enlevée, le vécu de l'intimité de la relation avec Dieu restauré. Et des chants de délivrance à nouveau dans sa bouche. Et ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances. David est encore conscient de circonstances potentiellement menaçantes. Verset 6, les grandes eaux qui risquent de déborder. Verset 7, la détresse qui peut survenir. David se sait protégé et entouré de chants de délivrance, quelle que soit la menace. Il en est de même pour nous qui vivons à l'époque où nous sommes de l'histoire du salut. Si nous soignons notre relation avec Dieu, dans un sens, nous n'avons rien à craindre. La plus grande menace qui soit, pour ainsi dire, les grandes eaux et la détresse que représente le jugement ultime, l'enfer, cette plus grande des menaces ne peut nous toucher si nous sommes en Christ. Et le savoir nous permet de vivre le bonheur du pardon de nos péchés, indépendamment de nos circonstances. Si tes circonstances durant le reste de cette année devaient être difficiles, grande consolation pour toi qui es croyante ou croyant, c'est que ta joie peut rester intacte. Cette question a été posée à des croyants en Iran. Vous êtes exposés chaque jour au danger, mais voici chez vous tant de joie et de rire. Expliquez-moi pourquoi vous êtes si joyeux. Réponse de l'un d'entre eux. Lorsque je servais Allah, j'étais prêt à donner ma vie pour Allah, qui était un Dieu distant, peu rempli d'amour, violent. À combien plus forte raison devrais-je être prêt à donner ma vie pour Jéhovah, le Dieu de la Bible, qui est plein d'amour et intime. Et un écrivain chrétien de commentaire ainsi, le plus grand malentendu de l'Église américaine, je pense que nous pouvons ajouter européenne aussi, le plus grand malentendu de l'Église américaine, c'est que lorsqu'on vient faire connaissance avec les gens dans des nations où la liberté est restreinte, on pense qu'ils vont être vraiment déprimés à cause de la persécution. Vous avez le dimanche de la persécution dans une semaine, n'est-ce pas? Et lorsqu'on s'assied avec eux, ils sont tellement joyeux et ravis. Et ça se voit sur le visage des uns et des autres alors qu'ils sont en train d'adorer Dieu, qu'ils ne sont absolument pas déprimés. L'entrave fondamentale pour vivre le bonheur du pardon des péchés ne sont pas les circonstances, mais le péché. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à force de confesser le péché devant Dieu, la joie du salut revient. Et normalement, sans tarder, me semble-t-il, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. » Le lien entre confession du péché et expérience du pardon est direct. Et David est tellement soucieux de communiquer à d'autres croyants ce principe. Verset 6, « Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. » Au temps convenable, je pense que l'idée là, c'est tant que l'occasion se présentera. Il ne faut pas tarder. Deuxième mot d'ordre, confession. Confession immédiate. Alors, je sais ce que certains dans nos milieux risquent d'avoir en tête en entendant le mot « confession ». Aller chez un prêtre dans un confessionnal, attendre le mot de l'absolution ou du pardon prononcé par le prêtre et le verdict en ce qui concerne la pénitence, rien de la sorte dans la Bible. La mort de Jésus nous permet d'avoir directement affaire à Dieu. Nous n'attendons pas le verdict d'un prêtre. En revanche, nous tournons les regards vers la croix et là, nous entendons le verdict pardonné. Il ne s'agit pas de la confession pour gagner le pardon, mais de la confession pour vivre le pardon. La relation n'est jamais en cause s'il en est croyant, mais l'expérience de la relation l'est. Et ce n'est pas parce que la confession a été déformée dans le catholicisme qu'elle ne devrait pas figurer dans notre vie chrétienne. Je ne suis pas sans savoir que parfois la confession au plan vertical doit être accompagnée par une demande de pardon au plan horizontal auprès de la personne qu'on a blessée. Nous savons cela grâce au Nouveau Testament. Mais ce psaume parle de nommer spécifiquement le péché devant Dieu pour nous en repentir. Concrètement, cela pourrait ressembler à quoi de prendre ce psaume au sérieux? Écoutez ce témoignage d'un pasteur aux États-Unis. Quand je rassemble tous mes péchés et que je les confesse en masse, pardon pour tous mes péchés, ce n'est ni difficile ni gênant. Mais si je prends chaque péché individuellement et que je le nomme, c'est tout à fait autre chose. Pour ma part, j'ai choisi de prendre chaque péché à part. Par exemple, je vais dire, contexte américain, pasteur qui compte le nombre de personnes dans son église. J'ai dit à un tel qui avait 900 voitures sur le parking de l'église, alors qu'il n'en avait que 600. C'était un mensonge, donc je suis un menteur. Je te demande pardon, parce que je suis un menteur. Ou bien, au lieu d'admettre que j'ai été un mauvais mari, je vais plutôt reconnaître, aujourd'hui, j'ai volontairement été égoïste, indifférent, et insensible. C'était une attitude tout à fait délibérée. J'ai franchi la porte de la maison en pensant, ce soir, je ne vais pas l'aider. J'ai eu une journée difficile et je mérite bien mon repos. Seigneur, j'ai besoin de ton pardon parce que je suis égoïste. Il poursuit. Je ne pense pas, explique-t-il, que beaucoup de chrétiens prennent la confession au sérieux. Si nous le faisions, nos vies seraient radicalement différentes. Quand on est parfaitement honnête avec soi-même et que l'on reconnaît ses péchés, quelque chose se passe. Lorsque, pendant 5 jours, vous vous êtes traité de menteur, de cupide, de manipulateur ou de quoi que ce soit, vous vous dites « j'en ai marre d'admettre ça. Avec la puissance de Dieu, je veux éliminer ce péché de ma vie. » Voici un exemple de ce que cela veut dire pour moi. Et mon épouse est témoin de ce que, depuis quelques années maintenant, ce psaume a été d'une très grande importance pour ma marche avec le Seigneur et que je passe par ces mots d'ordre très régulièrement, je pourrais illustrer à n'en plus finir à partir de ma vie. Mais je vais choisir une illustration qui remonte un peu, parce qu'il y a un côté un peu amusant et un côté aussi assez instructif. Et donc, si vous pouvez remonter dans le temps jusqu'à il y a 4 ans, novembre 2015, lorsqu'il y a eu les attentats de Paris, les attentats terroristes au Bataclan, etc. Juste après ce moment, nous, à l'Institut biblique de Bruxelles, nous avons rédigé un texte intitulé quelque chose comme 10 réactions bibliques saines à la suite des attentats de Paris. Et donc nous avons diffusé ce texte aux amis de l'Institut et on a eu pas mal de retours favorables, des personnes qui visiblement ont trouvé ça utile, savoir comment traiter, comment gérer ce qui s'était passé dans une bonne perspective biblique. Mais j'ai reçu un email de la part d'un frère qui avait un autre avis. Et en tout cas, il a expliqué son étonnement devant le fait que je n'avais pas évoqué Romains 13, donc l'exercice de la justice par les autorités, que ça ne figurait pas là-dedans, une explication assez développée concernant les raisons pour lesquelles j'aurais dû mettre un certain accent là-dessus dans cet article. Et moi, je me suis dit, mais il se prend pour qui, ce gars? Il pense que je ne sais pas faire mon travail? Et je commence à me sentir mal à l'aise intérieurement. Et heureusement, par la grâce de Dieu, j'étais sur le point de prêcher sur ce psaume. J'étais en bonne posture pour passer par les cases. Et je me suis rendu compte, par la grâce de Dieu, relativement rapidement, que cette réaction était de la pure fierté. Et une fois que j'ai juste reconnu ça devant Dieu, que j'ai confessé cette réaction d'arrogance devant Dieu, et je l'ai traité, donc la joie de mon salut est revenue. Et puis j'ai pu relire l'email avec une autre attitude, un peu libérée de mes sentiments d'auparavant. Et le frère avait parfaitement raison. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de tout cela, mais quelques mois plus tard, il y a eu encore des attentats à Bruxelles. Et donc, juste après cela, nous avons republié l'article, mais un article amélioré grâce à ces retours donnés par ce frère. Merci de comprendre ce que ce psaume n'affirme pas. Ce psaume n'affirme pas ceci. Si je veux connaître le bonheur du pardon, il me faudra repérer et nommer chaque péché dans ma vie, chaque jour, voire chaque heure, chercher dans tous les coins et les recoins de mon esprit, passer en revue chaque parole que j'ai exprimée ou pas, exprimer, tout analyser, et puis déceler les éléments de péché au sein de l'analyse, analyser l'analyse. Non. Ce type d'introspection n'est pas à l'ordre du jour dans le psaume. Mais il me semble approprié qu'on passe régulièrement du temps devant Dieu pour promouvoir la transparence. Lui demander de montrer des péchés dont on est coupable, et là où l'on se sent inculpé, on doit traiter cela. Mais attention, on traite ça à la lumière de la parole de Dieu. La conscience n'est pas infaillible. Et parfois, on peut se sentir coupable à cause d'une pression humaine non biblique. Mais là où on est objectivement coupable au regard des Écritures, on passe tout de suite à la confession. Je pense à un moment où j'ai dû reprendre quelqu'un dans le cadre de mon travail. C'était quelqu'un de mûr et j'ai pu apprécier cette maturité d'autant plus qu'il n'a pas hésité un instant à reconnaître sa faute, même s'il pouvait comprendre que les conséquences de ce péché allaient être difficiles à gérer pour lui. Confession rapide, c'est toujours la meilleure démarche. Proverbe 28, verset 13. Celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Il y a une vingtaine d'années, je faisais partie d'une communauté croyante à confesser devant la communauté un péché sexuel. Je n'ai pas un souvenir suffisamment précis du déroulement de la confession, mais ce que je retiens, et cela pourrait paraître bizarre, c'est que c'était un témoignage à la fois choquant, bien sûr, et réjouissant. Ce n'est pas qu'elle ait minimisé la gravité de son péché, mais qu'elle était soulagée. Ayant confessé, elle connaissait la paix, nous expliquait-elle. C'est comme si elle parlait à la manière du verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. Les conséquences de son péché étaient lourdes et allaient continuer à l'être, mais elle se savait pardonnée, et dans un sens que c'est là ce qui primait. Deuxième mot d'ordre pour une vie chrétienne réjouissante en continu, la confession. Confessons rapidement nos péchés à Dieu. En Jean encore, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime propitiatoire pour nos péchés. Il a tout pris en charge pour notre pardon. N'est-ce pas merveilleux? Et la porte reste ouverte pour que nous vivions cette merveille. Si tant est que nous confessions nos péchés à Dieu. Mais vous le savez bien, nettement mieux que devoir confesser tel ou tel péché, c'est ne pas commettre tel ou tel péché au départ. Troisième mot d'ordre, la docilité. La docilité. Laissons-nous conduire sur le chemin de Dieu. Laissons-nous conduire sur le chemin de Dieu. Relisons les versets 8 à 10. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. L'appel, c'est à la docilité, à nous laisser conduire par Dieu, à écouter son instruction, verset 8. Lorsque nous entendons sa voix dans les Écritures, n'endurcissons pas notre cœur. Ne soyons pas comme le cheval rétif, verset 9. Pour le cas où il y aurait des personnes dans cette salle qui ne sont pas propriétaires d'écuries et de chevaux, voici une image analogue tirée de notre vie, encore une fois à Bruxelles, dans le métro à Bruxelles. J'ai vu un enfant qui refusait de sortir à la station avec sa maman. La maman a essayé de le pousser, mais il s'est braqué, il s'est révélé fort pour résister. Elle a fini par devoir le prendre dans ses bras, mais c'était chaud. Que Dieu nous donne d'être humbles, soumis, dociles devant sa parole, sa direction, sa conduite. Je connais les raisons pour lesquelles nous risquons de ne pas l'être. La peur du rejet si j'obéis dans ce domaine. La peur des conséquences si j'écoute la voix de Dieu dans cet autre domaine. La peur de l'inconnu lorsque je change de comportement, que nous nous laissons instruire par ce psaume en ayant plutôt peur des dangers de l'obstination, versets 3 et 4. Ayons peur d'être privés de l'expérience du bonheur qui devrait être le nôtre du fait du pardon de nos péchés. Que nous puissions favoriser ce cercle vertueux. Lorsqu'on est transparent dans la relation avec Dieu, lorsqu'on confesse ses péchés devant Dieu, on a moins envie de pécher contre Dieu et on a plus envie de se laisser conduire par Dieu, d'obéir à sa voix dans les Écritures. Et avez-vous remarqué ce qui est particulièrement précieux dans ces versets? C'est vraisemblablement Dieu qui parle au verset 8 et 9, à David dans un premier temps, mais ce qu'il dit s'applique à tous les croyants qui passent par les mêmes étapes que David, et cela se confirme au verset 9 où Dieu s'adresse à des personnes au pluriel. Et le verset 8 est précieux, parce que parfois, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que le péché colle à la peau, et nous pouvons avoir l'impression que nous ne progressons pas, ou que très peu, ou que peut-être que nous ne pouvons pas continuer, parce que c'est juste trop difficile. Mais, verset 8, Dieu a le regard sur nous. Nous savons ce que cela veut dire, nous savons ce que ça donne de veiller sur un tout petit qui commence à marcher et puis essayer d'avoir une conversation. Donc le tout petit est en train de marcher par là, nous sommes en train d'essayer d'avoir une conversation par ici, nous trouvons ça difficile. Mais Dieu n'a pas de difficulté en veillant sur nous, en ayant le regard sur nous. Il réussit. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne nous abandonne pas. Il continue à œuvrer en nous. Et parmi les preuves de cela est justement le fait qu'il nous corrige, qu'il inculpe notre conscience, qu'il nous fait ressentir l'horreur de notre péché. Nous lisons dans les deux testaments, « Ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Fin du verset 10. Si notre confiance est placée en Dieu, nous sommes environnés de sa bienveillance ou de sa fidélité. C'est l'idée que Dieu reste indéfectible dans son engagement envers nous. Tu penses qu'il va te lâcher? Pas question. Mais peut-être qu'il y a des gens dans cette salle qui n'ont jamais eu affaire à Dieu, qui jusque-là n'ont fait aucun cas de Dieu, qui n'ont jamais connu le pardon des péchés, qui n'ont jamais eu un ami suffisamment fidèle ou courageux pour dire « Tiens, tu viens à l'église, mais je n'ai jamais vu d'indication comme quoi tu as une relation vivante avec Dieu. Tu te braques là devant l'idée de te rendre à Dieu. » Si c'est ton cas, je ne peux pas proposer quelque consolation que ce soit à partir de ce psaume. Je dois te rappeler les grandes eaux, la détresse, les douleurs que ce psaume évoque et qui s'appliqueront à toi. Il y a quelques années, en vacances, nous étions au sud-ouest de l'Irlande et le temps n'était pas terrible et des vagues de l'Atlantique avaient emporté une femme qui s'était aventurée parmi les rochers. Notre guide nous a montré l'endroit. Nous trouvons cette image dans le psaume. Et c'est ton sort final. Emporté par les vagues. À moins de t'abriter en Jésus-Christ. À moins de trouver en lui un asile, un refuge, que quand, au temps convenable, nous dit le psaume, tant qu'il y aura la possibilité, maintenant. Et cela passe par les mêmes mots d'ordre que nous avons notés. Transparence, confession, docilité. Et alors, toi aussi, tu connaîtras le bonheur d'être en règle avec Dieu. Tu vas savoir que les grandes eaux ne vont pas déborder pour toi et tu connaîtras la vie éternelle. Et toi, en ce jour, pour la première fois que tu connaisses une joie profonde en Dieu et que tu sois mû avec nous toutes et tous qui respectons les trois mots d'ordre, à vivre le verset 11. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen.